VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 17h à Bangui, 16h à Ouagadougou, 17h à Ouagadougou, 16 et 18h à Bangui. Bonsoir, bienvenue à Calmi dans les violences en Centrafrique. Les principales voies d'accès à Bangui ont été débarrassées des barricades érigées par les manifestants, le signe d'une baisse de la tension dans la capitale centrafricaine. Les récents événements de Bangui ont contraint la présidente intérimaire Catherine Samba-Panza à interrompre sa participation à la 70e Assemblée générale de l'ONU, ainsi qu'à une réunion spéciale sur la République centrafricaine africaine à New York, en route pour Bangui. Madame Samba-Panza s'en est expliquée lors d'une escale au Cameroun.
En tant que chef de l'État, il était normal que je raccourcisse mon séjour et que je revienne, reprendre les choses en main, appeler les Centrafricains au calme et essayer surtout de recoller la cohésion sociale qui a été mise à mal à partir de cet événement malheureux. Le Cameroun a effectivement toujours été à nos côtés, ne serait-ce que pour nous aider sur le corridor Bangui-Douala, ne serait-ce que pour assurer la sécurité de la République centrafricaine à travers la mise à disposition d'une importante troupe camerounaise et puis surtout à travers un appui conséquent pour nous accompagner dans le processus électoral. Je ne peux que remercier très fortement mon homologue du Cameroun et demander de continuer à nous accompagner dans ces moments difficiles.
La présidente intérimaire centrafricaine, Catherine Samba-Panza, lors de son escale au Cameroun, elle a été interrogée par Edwin Moki Kinzika. Au Burkina Faso, la fin de la crise engendrée par le refus du RSP de désarmer après l'assaut hier de leur caserne par l'armée loyaliste. Un grand soulagement pour la population, mais un gâchis pour le régiment de sécurité présidentielle. C'est en tout cas l'avis de Kidoulaye Corentin. Il est le responsable du centre de recherche stratégique à Ouagadougou.
Ici, à Ouagadougou, tout le monde estime que c'est effectivement le dénouement de la crise, puisque le bastion du RSP qui restait à enlever, c'était celui-là, le camp Mabakom 2. Et depuis hier, ceci a été fait. C'était un grand sentiment de soulagement pour les Burkinabés. Je ne dis pas de joie parce que finalement, il n'y a pas eu de grands éclats de joie à Ouagadougou, mais un sentiment de soulagement tellement les gens étaient fatigués de cette crise. Car n'oubliez pas que le peuple a veillé depuis le 16 septembre, jusque donc à ce dénouement, hier 29 septembre. Mais aussi un grand sentiment d'achille finalement, parce que voilà des groupes d'élite, entre guillemets, qui auraient pu servir à la nation, qui auraient pu positivement épauler les grandes transformations qui sont en train de se faire actuellement au Burkina Faso, s'ils avaient un tant soit peu écouté les conseils, les appels, les injonctions que lui adressait le peuple, que lui adressaient les autorités. Et vraiment, c'était tout à fait dommage.
Kidoulaye Corentin, responsable du centre de recherche stratégique à Ouagadougou, au micro de Eric Manirakiza. Un chef Touareg d'un groupe islamiste malien lié à Al-Qaïda, soupçonné d'avoir dirigé la destruction en 2012 de mausolée à Tombouctou, a comparu aujourd'hui devant la Cour pénale internationale, une première à plusieurs égards pour cette institution. Claire Morin-Gibou.
Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi est le premier djihadiste à comparaître devant la CPI, le premier suspect arrêté et poursuivi par la Cour pénale internationale pour destruction d'édifices religieux et monuments historiques. Doté d'une épaisse chevelure frisée, d'une barbe et de lunettes rectangulaires, le suspect, habillé d'un costume bleu foncé très classique, a préféré s'adresser en arabe à la cour. Mon nom est Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi. Je suis de la tribu Touareg Al-Ansar. Je suis né il y a environ 40 ans, a-t-il dit au juge. Selon l'accusation, M. Al-Mahdi était un des chefs d'Ansardine, un groupe islamiste radical associé à ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il est accusé d'avoir dirigé la destruction de 10 édifices religieux dans la vieille ville de Tombouctou, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. La CPI avait ouvert en 2013 une enquête sur les exactions commises au Mali par les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. L'audience de confirmation des charges a été fixée au 18 janvier étape de la procédure durant laquelle la procureure doit convaincre les juges que son dossier est assez solide pour mener à un procès.
En Côte d'Ivoire, plus d'un millier de victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont obtenu réparation dans le cadre d'un processus d'indemnisation débuté il y a 2 mois. L'opération connaît un engouement certain. Écoutons Marie Toukoné, elle est la directrice générale du Programme national de cohésion sociale, le PNCS, en charge de l'indemnisation des victimes.
Au titre de l'indemnisation, nous avons commencé avec 4500 personnes et aujourd'hui, l'indemnisation, je dirais, se porte bien parce que près du tiers a reçu réparation. Près du tiers des victimes a reçu réparation.
Pensez-vous que cette opération va contribuer à l'apaisement à un mois de l'élection présidentielle?
Fortement contribuer à l'apaisement et ça a déjà commencé parce que des gens qui n'avaient aucun soutien, qui n'avaient aucun pilier, qui voient maintenant qu'ils sont regardés, l'expression en Afrique, regardés, on me regarde, regardés par l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils reçoivent compassion de l'État de Côte d'Ivoire au plus haut niveau, c'est-à-dire par le président. Ils reçoivent compassion également de toute la nation. Je pense que ça soulage les douleurs. Et aujourd'hui, il y a un engouement autour du processus de réparation des préjudices dus aux victimes qui fait que nous ne pouvons que saluer l'opération et nous espérons que ceux qui étaient encore réticents, qui avaient lancé des mots d'ordre demandant aux gens de ne pas s'inscrire, que ces personnes-là comprennent qu'il faut que tout le monde s'inscrive pour bénéficier du fonds spécial d'indemnisation pour les victimes. Parce que ça ne tient pas compte de camp, ça ne tient pas compte de couleur, ça ne tient pas compte de religion, ça ne tient pas compte de parti politique.
Maria Toukoné, directrice générale du programme ivoirien de cohésion sociale. Le siège de l'Organisation internationale pour le cacao, ICCO, basée à Londres depuis plus d'un demi-siècle, va être délocalisé à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de la fève. A-t-on appris aujourd'hui de sources officielles? Le processus de déménagement va débuter le 1er octobre pour s'achever le 31 mars 2017, a affirmé à l'AFP Jean-Louis Billon, le ministre ivoirien du Commerce, saluant une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Des milliers de Sud-Africains se sont rassemblés aujourd'hui à la mi-journée dans le centre de Pretoria pour manifester contre la corruption. À l'appel de dizaines d'organisations de la société civile, ONG, syndicats, églises, les manifestants devaient se diriger vers le siège du gouvernement. Une manifestation similaire était prévue également au Cap, siège du Parlement. Les marcheurs ciblaient particulièrement le président Zuma, empêtré depuis des mois dans le scandale de la rénovation de sa résidence de campagne privée sous couvert de travaux de sécurité. La facture des travaux s'est élevée à près de 20 millions d'euros. Des personnalités de la société civile, dont le prix Nobel de la paix Desmond Tutu, ont apporté leur soutien à la manifestation.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et première frappe aérienne russe en Syrie. L'information a été divulguée ce matin par Washington, confirmée par le Kremlin. Le Sénat russe a donné son feu vert très tôt ce matin. Les frappes semblent avoir été menées dans les environs de Homs. Salwa Jafari.
L'intervention russe est loin d'être une surprise. Les intentions de Vladimir Poutine étaient claires depuis longtemps. Il ne lui manquait qu'une demande de Bachar al-Assad et un feu vert de son Sénat. Quelques heures à peine après l'avoir obtenu, les forces aériennes ont fait leur entrée dans l'espace syrien. On parle de frappes réussies. Les Russes disent avoir détruit des équipements militaires et des stocks d'armes et de munitions du groupe État islamique dans la région de Homs. La question qui se pose néanmoins, l'État islamique sera-t-il le seul dans la ligne de mire ? Pavel Felgenauer, analyste militaire, explique.
Il est fort possible que les forces de l'opposition syrienne, surtout la partie islamiste comme le front al-Nusra, proche d'Al-Qaïda, soient ciblées.
Cet engagement militaire ne concerne en tout cas que des frappes aériennes, excluant ainsi, pour l'instant, l'engagement de troupes au sol. Cette accélération de l'engagement de Moscou dans le dossier syrien s'inscrit sur fond de bras de fer entre Barack Obama et son homologue russe sur le sort à réserver à Bachar al-Assad. Washington le qualifie de tyran. Moscou voit en lui un rempart contre les djihadistes du groupe État islamique.
En Afghanistan, l'OTAN a déployé des soldats à Kunduz pour épauler l'armée afghane qui peinait à reprendre la main dans cette grande ville du nord face aux rebelles talibans. La ville stratégique de Kunduz était tombée lundi aux mains des talibans, une première depuis la chute de leur régime en 2001 et un très grave revers pour le président Ashraf Ghani et ses alliés occidentaux emmenés par les États-Unis. Kunduz restait ce mercredi très largement contrôlé par les talibans. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochain journal sur notre station, c'est dans 20 minutes seulement avec le magazine Le Monde Aujourd'hui. Merci et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.